Okapi. 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 Okapi.
Bonjour, au micro Nicole Ndaka. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver en ce jour. Okapi Action aujourd'hui démarre à Kinshasa ou aux cliniques universitaires de Kinshasa. De nombreuses personnes meurent faute de moyens financiers. Certains arrivent cependant à survivre, même démunis. Mais pour combien de temps et à quel prix? Eugénie, une petite fille de 13 ans, souffre d'insuffisance rénale, maladie qu'on ne peut traiter au pays. Elle survivra à condition d'aller ailleurs, sous d'autres cieux, se faire soigner. Un défi que compte bien relever son père adoptif. Le point dans ce dossier. À Manaka, la question sur la restitution des biens meubles confisqués par l'État congolais à certains particuliers est à l'ordre du jour. Pendant la guerre, plusieurs biens privés à l'Équateur ont été réquisitionnés par les belligérants. Maintenant que la guerre a pris fin dans la province, ces biens devraient normalement être restitués aux propriétaires. Mais les choses ne sont pas si simples et beaucoup de Congolais en payent les conséquences. Comment vivent les membres d'équipage? Pourquoi a-t-on bloqué les bateaux qui ont été restitués par le mouvement de libération du Congo depuis plusieurs mois? Élément de réponse dans ce dossier que nous présentera tout à l'heure Askazigbia Taero. Retour à Kinshasa une fois de plus, où la commune de Kimbanseke, est l'une des communes de la capitale où l'accès en eau potable pose problème dans certains quartiers, ce qui occasionne la survenue de plusieurs cas de maladies liées à la consommation de l'eau impropre. Pour sauvegarder cette population de la flambée de ces maladies, MSF Belgique a mis en place des réservoirs d'eau potable dans 6 quartiers de cette commune. Nous en saurons un peu plus tout à l'heure. Devant moi, autrement dit à la réalisation, il y a une équipe en duo de techniciens et je vous propose de nous appeler au 081-890-68-90 pour participer à cette émission.
Okapi. Okapi. Le Congo à l'écoute.
Voilà, je vous le disais tout à l'heure, l'insuffisance rénale est une maladie très peu connue ici en République démocratique du Congo. Et pourtant, de nombreuses personnes en souffrent. Nous avons dernièrement parlé du cas de Jeunie dans une de nos émissions. Ce n'est pas l'unique cas de maladie d'insuffisance rénale dans notre pays. Et des cas comme cela, il y en a de plus en plus à faire soigner ici. Mais c'est difficile dans nos cliniques. Bénéficier d'un traitement médical afin d'ôter les déchets du sang des patients souffrant d'insuffisance rénale n'existe presque pas dans le pays. Pour revenir au cas de Jeunie, cette jeune fille âgée de 13 ans, mais qui a été dernièrement adoptée par un Congolais dans le but d'aller se faire soigner en Belgique, nous allons en parler tout de suite là avec Nathalie Muteba que nous retrouvons. Nathalie, bonjour.
Bonjour Nicole, bonjour chers auditeurs.
Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui dans Okapi Action. Vous avez poursuivi ce dossier pour nous. Comment a évolué le cas de Jeunie? A-t-elle finalement pu avoir son visa pour la Belgique?
Eh bien, Nicole, les choses évoluent lentement, mais sûrement. Vous savez que cette jeune fille est très, très malade. Les cliniques universitaires sont aussi conscientes de son état, puisque c'est là-bas qu'elle y est traitée. Mais à l'ambassade de la Belgique, il faut des preuves médicales. Et ces preuves ne viendront que de son médecin traitant, ni même des cliniques universitaires, mais plutôt du centre médical de Kinshasa, CMK, comme on l'appelle. Ils doivent attester qu'effectivement, Jeunie souffre d'insuffisance rénale. C'est seulement après que l'on démarrera le processus pour l'obtention du visa.
Donc, si l'on comprend bien, les choses traînent encore aujourd'hui. Mais est-ce que toutes ces démarches médicales ont été faites jusque-là?
Vous savez, Nicole, c'est l'association qui prend en charge les frais médicaux. Alors, les moyens financiers, il faut les rassembler. Cela nécessite un peu de temps. Mais c'est mon Grâce, qui est l'un des membres de cette association. Elle nous a confirmé que ces examens au niveau de CMK pourraient s'effectuer aujourd'hui. Nous sommes donc mardi. Et si l'on peut... Enfin, c'est ainsi qu'elle a dit.
Oui, donc on en saura un peu plus, peut-être aujourd'hui, en rappelant Grâce. Mais nous savons que Nathalie Jeunie a été adoptée par un Congolais, si je ne me trompe pas. pas. Il s'agit de M. Mobindi Mathieu, à qui on a dernièrement décerné le titre honorifique d'ambassadeur de la paix par CULPAC, qui n'est autre qu'une association sans but lucratif. Ne peut-il pas déjà, lui, à son niveau, assister financièrement cette petite fille, surtout que, compte tenu du fait que l'association des étudiants en médecine est plutôt, je dirais, pas démunie comme telle, mais n'a pas suffisamment de moyens?
Bon, vous savez, Nicole, l'association n'a pas de moyens extraordinaires, c'est vrai, mais du moins, pour la ville de Kinshasa, dans le pays, elle veut achever ce qu'elle a commencé. Et comme aujourd'hui, elle a pu finalement rassembler des fonds, elle s'engage donc à assister et jeûner pour ce qui est des examens au niveau du centre médical de Kinshasa. Je vous prie d'ailleurs de suivre le père adoptif de Jeûner à ce sujet.
Lors de mon passage à l'université de Kinshasa pour faire poser un acte humanitaire comme notre centre Belgo a l'habitude de le faire, les étudiants de la faculté de médecine m'ont interpellé au cas de notre jeune fille Eugénie. Alors, vu que moi je suis employé en Belgique, employé du ministère des Affaires sociales, et étant père de famille, j'ai accepté de la prendre en charge. C'est-à-dire, on avait effectué toutes les démarches d'adoption sur place à Kinshasa. Bon, de mon retour, j'ai donné une procuration à monsieur, disons, les représentants des étudiants SOS et Génie, parce qu'il y a une ASBL qui a été créée au nom de ma fille, si je peux le dire, si je peux me permettre, parce qu'elle est déjà ma fille adoptive depuis le mois d'octobre dernier.
Oui.
Alors, l'ambassade belge, j'avais d'abord donné une procuration pour qu'on aille légaliser tous ces documents. Bon, par rapport à ça, vu que moi je suis en Belgique et que les représentants des étudiants qui détient la procuration devait se présenter à l'ambassade pour me représenter. À chaque fois, il y a un formulaire à remplir, on doit me l'envoyer par la voie des hôtels, c'est le temps que ça arrive ici, le temps de les faire légaliser par la commune. Il y a des fois, ça prend une semaine pour faire retourner le document. C'est ça qui nous fait passer le temps. Mais au moment où je vous parle, tous les documents sont déjà acquis, mais il y a un malentendu entre le comité des étudiants et les gens de l'ambassade de Belgique.
Quel malentendu?
Moi, je suis...
Voilà, c'était donc là l'entretien qu'on avait eu avec le père adoptif de Jeûner, qui n'est autre que Mathieu Mobindi. Donc, Nathalie, si l'on comprend bien, en Belgique, c'est son père adoptif qui s'occupera de tout ce qui est frais médicaux.
Tout à fait. D'ailleurs, il vient de le dire. Il a adopté Jeûner, donc Jeûner est devenue sa fille. Donc, il n'y a pas de problème à ce sujet.
Mais rien ne garantit que cela se fera ainsi, parce que qu'est-ce que nous, ici à Kinshasa, avons comme preuve que réellement, il va s'occuper de Jeûner comme si c'était sa fille?
Écoutez, Nicole, c'est difficile à dire pour l'instant, mais c'est ce qui a été décidé, surtout que Eugénie devient l'enfant adoptif de ce mécène, M. Mathieu Mobindi. Un parent n'a-t-il pas le devoir d'assister son enfant en cas de maladie? Et en dehors de nos frontières, l'association pourra difficilement, je dis bien difficilement, intervenir, surtout qu'aujourd'hui c'est une toute petite association et ce budget est tellement réduit.
Alors, M. Mobindi a déjà enregistré Eugénie à l'hôpital là-bas en Belgique?
Oui, enfin du moins selon l'entretien que nous avons eu avec lui, il a déjà fait, mais seulement il réside un problème parce que l'ambassade ici veut accorder à Eugénie un visa maladie, ce qui veut dire qu'après ses soins, elle devra retourner. Or c'est pas possible puisqu'elle est devenue, je peux le dire, mademoiselle Eugénie Mobindi. Donc, en principe, c'est plutôt un visa regroupement familial qu'on devrait lui accorder. Je ne sais pas si la régie est prête, on pourrait écouter M. Mobindi à ce sujet.
Il y a un malentendu entre le comité des étudiants et les gens de l'ambassade de Belgique.
Quel malentendu?
Moi, je suis... Quand je parle de malentendu, Eugénie a été adoptée, elle est ma fille. Moi, je suis en règle en Belgique, je travaille. Donc, je peux subvenir à ses besoins. Tandis que là, on leur parle des visas maladie. Or, le visa de maladie, c'est un visa à court, c'est comment est-ce qu'on dit ça? De 3 mois, donc maximum 3 mois, je crois. Donc, la personne, si elle vient prendre les soins en Belgique, elle doit retourner. Or, Eugénie ne va pas retourner parce que c'est ma fille, c'est un visa de regroupement familial. Elle vient rejoindre ses frères et sœurs qui sont ici avec moi en Belgique.
Mais l'association nous donc, a dit qu'elle était également confrontée au problème de frais financiers parce que elle voulait prendre elle-même en charge, je dirais, les examens médicaux au niveau de CMK, qui est le centre médical de Kinshasa ici.
Mais non. Il y a ceci. Nous, on s'était convenus, les étudiants et moi, que moi, je prendrai Eugénie en charge dès son arrivée ici. Il y a des petites formalités à faire là-bas.
Mais au niveau de Kinshasa.
Les faits pour légaliser les documents, tout et tout.
Et puis les examens aussi au niveau de Kinshasa. Oui. Les examens aussi au niveau de Kinshasa. Il y a aussi les examens. L'ambassade demande à ce que l'association fasse des examens ici à Eugénie au niveau de CMK. Parce que j'imagine
non,
que...
Moi, je détiens tous les documents. Et je ne sais pas si... Parce que je n'ai pas encore parlé avec son médecin traitant. Moi, je parle avec le comité des étudiants. Donc, si on me dit que CMK exige, je dois savoir la réalité. Parce que là, on parle des visas de regroupement familial et non des visas de maladie.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup Nathalie pour ces précisions. C'était donc là Mathieu Mobindi qui est en fait le père adoptif. Je n'aimerais pas tellement dire adoptif, mais le père en fait de Jeannie. Certainement de plus amples détails là-dessus avec le docteur Aloni tout à l'heure.
Merci beaucoup.
Merci Nathalie.
Okapi.
Okapi. Le Congo à l'écoute.
C'est ça la vie, une chanson qui a certainement plu à tous les auditeurs qui nous suivent en République démocratique du Congo et bien sûr ailleurs également. Et je rappelle à tous ceux qui veulent participer à cette émission qui peuvent nous joindre au numéro 081 890 68 90. Le premier thème que nous avons eu à évoquer dans cette émission, ça concerne en fait le problème de santé. C'est en fait une maladie qu'on évoque dans cette émission aujourd'hui. On revient sur une question qu'on a eu à aborder dernièrement, c'est le cas de Jeannie. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes maintenant avec le docteur, le médecin traitant, le docteur Aloni, qui est en fait le médecin traitant de Jeannie. Bonjour docteur.
Bonjour Nicole.
Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver une fois de plus dans cette émission. Alors la première question que nous vous posons est celle de savoir si aujourd'hui Eugénie va bien.
Oui, pour le moment Eugénie va bien, va assez bien. Elle continue ses séances de dialyse malgré les difficultés financières que nous avons pour pouvoir nous procurer ces dialysants. Sinon elle va bien et je vous informe qu'elle a fait sa première communion le 25 décembre. Donc elle va très bien.
Mais nous savons que Eugénie a été adoptée par un monsieur. C'est monsieur Mathieu Mobindi qui la considère d'ailleurs comme sa propre fille et que d'ici là, cet homme, en fait, il vit en Belgique. D'ici là donc, Eugénie partira pour la Belgique où elle ira rejoindre son père et pourra être suivie médicalement parlant là-bas en Belgique. Alors comment s'évolue ce dossier visa Belgique?
Bon, le dossier évolue assez bien. Il y a quand même les lourdeurs administratives. Je crois que les papiers pour l'adoption ont été réunis. Les formalités au niveau de l'ambassade, c'est là qu'il y a un peu... Enfin, vous connaissez les ambassades ici chez nous. La petite devait être examinée par un médecin de l'ambassade. Et elle a, du moins, elle a son passeport et elle devait être examinée par le médecin de l'ambassade qui devait voir l'état de l'enfant et faciliter l'obtention du visa et des papiers pour qu'elle puisse voyager en Belgique en toute quiétude.
Vous pensez qu'elle pourra partir d'ici quand?
Bon, mon souhait, c'est qu'elle parte le plus tôt possible, hein, le plus tôt possible, parce que j'ai peur qu'on ait une rupture de stock de dialysa qui risque encore de compliquer la situation. Mais nous espérons que d'ici un mois et demi, que la petite puisse se rendre en Belgique pour suivre ses soins.
Vous parlez de rupture de stock de dialysa. Cela suppose qu'aux cliniques universitaires, vous êtes approvisionné, mais que cela n'est pas régulier.
C'est ça. En fait, c'est un problème que nous avons soumis plusieurs fois au gouvernement congolais depuis 2 ans. Malheureusement, qui ne trouve aucune solution. Et ça, il faut le dire. Nous sommes un peu déçus de ce côté-là. En fait, les dialysats sont supportés par les malades eux-mêmes. Lorsque le malade arrive, lorsqu'il est en insuffisance rénale, il paye son argent et on fait la commande en Afrique du Sud. Parce que ce sont des produits qu'on ne peut pas fabriquer, qu'on ne fabrique pas sur place. Et donc, il faut importer ça d'Afrique du Sud avec tout ce que ça coûte comme fret et comme frais de douane.
Cela suppose que toutes les personnes qui souffrent de cette maladie-là, autrement dit d'insuffisance rénales sont difficilement prises en charge ici dans nos hôpitaux?
Extrêmement difficilement prises en charge parce que vous connaissez le niveau de vie de la population congolaise. Les dialysats, pour commencer, ne fût-ce que 10 séances, il faut 2 000 $. Donc je crois qu'aucun Congolais qui travaille normalement ne peut avoir ce montant. Et donc ces malades sont pris difficilement en charge. On peut commencer et à un moment donné, vous voyez, la famille s'essouffler et on est obligé d'arrêter. Et malheureusement, quand vous arrêtez, il s'ensuit la mort.
On a évoqué, Dr Aloni, le cas de Eugénie. On aimerait avoir une idée sur le plan statistique. Est-ce qu'il y a beaucoup de Congolais qui souffrent d'insuffisance rénale, ne fût-ce qu'au niveau des cliniques universitaires?
Alors, c'est une très bonne question, Nicole. Et c'est peut-être des études que nous devons mener sur toute la République. Mais au moins, au niveau des cliniques universitaires, il est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent d'insuffisance rénale aiguë, des formes aiguës, liées surtout au paludisme. Et il y a aussi beaucoup d'enfants qui font des insuffisances rénales chroniques. Et les adultes, tous les adultes, il y a beaucoup d'adultes qui sont prédisposés à faire ces complications, normalement les diabétiques, les hypertendus. Donc nos amis de médecine interne ont beaucoup de cas. Et chez nous en pédiatrie, nous avons...
À peu près combien?
Bon, les statistiques, je ne les ai pas, parce que vous savez que chez nous, nous n'avons pas encore... C'est une étude qui est en chantier. Nous voulons faire un peu des statistiques pour savoir combien d'enfants par million d'habitants. Parce que vous voyez, il faut avoir des centres, des centres pilotes, des centres de points focal, pour essayer d'avoir l'idée des enfants qui souffrent d'insuffisance rénale chronique en République démocratique du Congo. Or, vous savez que l'unité de néphrologie pédiatrique ne se trouve qu'aux cliniques universitaires, et donc il y a beaucoup d'enfants qui nous échappent, qui meurent faute parfois de diagnostic ou qui arrivent très tard.
Vous êtes en pédiatrie, vous êtes pédiatre. Cela suppose que, bon, puisque vous n'avez pas vraiment relevé les statistiques, mais cela suppose qu'on a quand même des cas, hormis Eugénie, d'autres cas d'enfants qui souffrent d'insuffisance rénale.
Beaucoup. Nous avons beaucoup de cas d'enfants qui souffrent d'insuffisance rénale. Pour le moment, en clinique, j'en ai 3. Il y a une qui s'en est bien sortie sans la dialyse. On n'est pas arrivé au stade de dialyse. Et il y a un autre qui vient d'arriver. Qui
n'était pas aigu, hein. C'était pas chronique plutôt.
Non, c'était une forme aiguë liée au paludisme. Mais il y a un qui vient d'arriver, qui est là depuis 3 jours, en provenance de Kimpese, dans la province du Bas-Congo. Et c'est un cas très malheureux parce que là, les parents sont complètement démunis. C'est un enfant qui est complètement gonflé, qui n'urine pas depuis 10 jours et qui est là. Et je ne sais pas, j'ai pris de ces nouvelles. La situation n'était pas très bonne. Il faut une dialyse en urgence. Mais malheureusement, le papa n'a pas le moyen. C'est vraiment un démuni. Il vient de Kimpese. La maman est en pleurs. Malheureusement, il n'y a personne pour nous aider dans pour ces cas. C'est vraiment malheureux. Et il y a encore 3 semaines, nous avons perdu un autre enfant de 11 ans. Là, toujours même chose. C'est la pauvre grand-mère, parce que les parents irresponsables n'étaient pas sur place. La pauvre grand-mère qui a dû se battre pour essayer de sauver cet enfant. Malheureusement, elle n'a pas pu avoir les moyens pour faire la dialyse et elle est décédée. Mais c'est une chose qu'on peut facilement combler. Enfin, si on peut nous mettre en service le service d'hémodialyse. Il y a tout un service d'hémodialyse aux cliniques universitaires qui ne manque qu'un investissement de 100 000 $. Et malheureusement, malgré toutes les lettres écrites aux autorités...
Vous avez fait des démarches là-dessus?
Toutes les autorités, depuis 2 ans. Toutes les autorités sont informées, du sommet de l'État en passant par le gouvernement.
Vous avez pris contact avec le ministère de la Santé? Le
ministère de la Santé a tous les documents. La vice-présidente chargée de la commission socio-économico-financière, Jean-Pierre Bemba, son excellence Jean-Pierre Bemba, qui est passé une fois au clinique, on lui a remis les documents. L'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, M. Vaïs Bouchard, avait aussi reçu les documents. Nous l'avons lancé un cri de détresse qu'on puisse venir en aide à cette unité de dialyse. Mais malheureusement, les appareils sont là. C'est un don, parce que nous ne vivons que des dons. Et personne, aucune autorité politique ne daigne venir nous aider. C'est vraiment malheureux. Et peut-être que nous allons voir comment est-ce que contacter les ONG ou des partenaires étrangers pour qu'ils puissent nous aider.
Vous avez dit, en parlant justement de partenaires étrangers, que l'appareil que vous avez en ce moment aux cliniques universitaires, c'est un don. Donc, qui a été fait par...
C'est fait par un Congolais qui a été soigné en médecine interne, qui a souffert d'une insuffisance rénale chronique, mais qui est installé en Europe, qui est dans une association, je ne cite pas le nom, je ne sais pas si la publicité est permise ici, et il a envoyé 8 appareils pour l'hémodialyse. Ces appareils sont bel et bien là, et on a eu des difficultés bien sûr pour les dédouaner, parce qu'on ne nous a pas facilité la tâche non plus de ce côté-là. Les appareils sont là, mais il manque juste les intrants, c'est-à-dire amener de l'eau et avoir tous les composés pour pouvoir assurer l'hémodialyse à tous les Congolais. Malheureusement, ces appareils sont là, seront rongés par le temps, parce qu'ils sont stockés depuis 2 ans, et c'est mal vraiment.
Il manque que les intrants.
Que les intrants. Et le projet coûterait entre 50 000 à 100 000 $.
Mais est-ce que vous avez déjà établi des contacts avec, je dirais, les partenaires extérieurs, autrement dit, les médecins évoluant à l'étranger pour tant soit peu vous assister?
Oui, nous avons contacté la Fondation Rein Canada. Nous avons contacté la Société française de néphrologie pédiatrique. Bon, pour le moment, ils sont en train de voir comment ils peuvent s'organiser pour nous aider tant soit peu. Mais vous savez que la dialyse est un problème qui coûte extrêmement cher. Et donc là, c'est plutôt la tâche, ça revient, c'est une tâche qui revient au gouvernement. Donc nous essayons de contacter, ils nous envoient de temps en temps des petites choses pour pouvoir aider tant soit peu nos enfants. Mais malheureusement, c'est sur place. La dialyse doit être prise en charge par le gouvernement. Au Cameroun, par exemple, 90% des frais de la dialyse est à la charge du gouvernement. Au Congo, c'est 0%.
Je rappelle à tous les auditeurs qui peuvent nous joindre, s'ils veulent participer à l'émission, ils peuvent nous joindre au numéro 081-890-6890. Docteur Aloni, nous revenons à vous. Nous savons que Eugénie, elle, au moins, a cette chance-là d'être suivie à l'extérieur. Certainement que, je crois, elle pourra être sauvée.
Bon, Eugénie doit être suivie. En fait, on la transfère pour une greffe de rein, parce qu'elle est arrivée à ce qu'on appelle une insuffisance rénale chronique au stade terminal. C'est-à-dire qu'il faut absolument changer les reins. La greffe de rein ne peut pas se faire ici, chez nous, faute de matériel, pas faute de compétences, parce que les professeurs qui peuvent le faire sont là. Nous avons les chirurgiens compétents pour le faire, mais il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de sécurité pour assurer une telle opération ici chez nous. Bon, on pouvait la transférer dans des pays africains qui le font, le Kenya, le Nigeria, a commencé à le faire, et donc nous devons la transférer en Belgique pour cette greffe de rein. Alors là, nous allons voir s'il y a aussi des conditions pour qu'elle puisse être greffée. Et ce n'est pas toujours facile. Il faut être inscrit sur une liste.
Il y a des donneurs.
Et il faut trouver un donneur compatible. C'est-à-dire un donneur qui a toutes les caractéristiques génétiques de génie. Et souvent, généralement en Europe, on prend parmi les membres de famille ou alors vous attendrez un peu longtemps. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'elle peut subir ces séances d'hémodialyse que nous pouvions faire ici. Malheureusement, comme je vous ai dit, personne ne s'intéresse à ce secteur-là.
Ce n'est pas sûr, peut-être que après l'émission, vous serez contacté par un mécène qui acceptera de prendre, votre service en charge.
Bon, nous espérons que des mécènes vont nous contacter, mais malheureusement, je vous dis que c'est vraiment avec grande déception que nous venons parler de ces problèmes. Nous sommes un peu déçus de voir que nous faisons un domaine dans lequel nous ne pouvons pas bien évoluer parce qu'il n'y a pas de matériel. Personne ne nous contacte. Je vous dis, depuis 2 ans, nous avons remis au gouvernement tous les documents. Ils n'ont pas, personne ne daigne venir voir ce service. Bon, on va faire avec ce qu'on peut. Et maintenant, le problème qui se pose, faut-il continuer à accueillir ce genre d'enfants? C'est ça, maintenant, c'est un problème d'éthique. Or, ces enfants viennent de tout le pays vers les cliniques universitaires. Or, nous n'avons pas les moyens et nous assistons à puissant leur décès. Ça devient un problème.
Si maintenant un mécène nous suit, comment doit-il faire pour vous contacter?
Alors, s'il y a un mécène qui nous suit, vraiment j'espère qu'il y a quand même des gens qui vont répondre favorablement à cet appel, qu'ils puissent contacter la direction des cliniques universitaires de Kinshasa. Vous contactez la direction des cliniques universitaires et de là, on pourra me contacter facilement parce que je peux faire que ça passe par la direction qui est l'instance qui me régit aussi.
Un numéro de téléphone peut-être?
Bon, moi je donne mon numéro personnel, c'est le 99 35 531 ou 99 35 531.
Voilà, en tout cas je crois que tous ceux qui nous ont suivis et qui se sont touchés par ce problème vous contacteront d'ici là. Merci beaucoup docteur Aloni d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup.
Okapi,
Okapi en Mbandaka sur 103 FM.
Comme annoncé en début de cette émission, nous allons nous rendre à présent à Mbandaka où, pendant la guerre, plusieurs biens privés à l'Équateur ont été réquisitionnés par les belligérants. Et maintenant que la guerre a pris fin dans la province, ces biens devraient normalement être restitués aux propriétaires. Mais les choses ne sont pas si simples et beaucoup de Congolais en payent les conséquences. C'est le cas, tenez-vous bien, de 7 familles, 24 personnes au total, qui vivent un véritable calvaire dans le port de Mengé à Mbandaka. Certains sont réfugiés au port dans leur bateau depuis plus de 6 mois. Il s'agit des équipages du MB Mafuta et MB Dima. Ces bateaux sont bloqués au port par les autorités militaires de la 3e région militaire. Mais pourquoi a-t-on bloqué les bateaux qui ont été restitués par le mouvement de libération du Congo depuis plusieurs mois? Voilà, retour donc dans ce studio où nous sommes toujours avec vous. Nous vous le disions tout à l'heure, certains biens ont été réquisitionnés pendant la guerre par des particuliers. Mais à qui appartiennent-ils aujourd'hui? C'est bien. On va en savoir un peu plus là-dessus avec tout à l'heure Askin Zigbia. Le retour des biens privés réquisitionnés pendant la guerre dans la province de l'Équateur pose encore problème. Askin, vous êtes en ligne avec nous?
Je vous capte très bien. Bonjour Nicole.
Bonjour Askin. Alors, pouvez-vous nous donner un peu plus de précision à ce sujet?
Eh bien, Nicole, on se souvient que le belligérant avait réquisitionné le bien de particulier pour s'en servir pendant la guerre, notamment le bateau, le pirogue, véhicule, moto et autres engins. Certains de ces biens ont été pris de force par les ex-rebelles et d'autres sur autorisation des propriétaires. Maintenant que la guerre a pris fin, ces biens devraient en principe être restitués aux propriétaires.
Oui, certainement, mais y a-t-il des cas de certaines personnes dont les biens n'ont pas été restitués?
Effectivement, Nicole, plusieurs Congolais dans la province, tout comme à l'étranger, n'ont toujours pas retrouvé les biens qui ont été réquisitionnés. Nous avons contacté par téléphone le président du FEC, Badolit. Écoutons son témoignage sur cette situation.
Oui, bon, écoute, il y avait un cas de, je dirais, de monsieur d'un opérateur économique qui était à Businga, monsieur Malembe, qui est actuellement en exil au Cameroun. Il y avait son véhicule de la marque Mercedes 1924 qui a été réquisitionné pour des besoins militaires. Donc, il a été d'abord entre les mains des alliés tchadiens du gouvernement, et quand MLC est venu, il a récupéré cet engin et nous avons tenté des démarches au niveau de la fédération pour récupérer cet engin. Malheureusement, on nous dirait que c'était tombé en panne et c'est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui.
Oui, on a donc suivi là le témoignage par téléphone du président de la FEC de Guadeloupe. Mais une précision tout de même, Askin Zigbia, est-ce qu'on déplore également cette situation en Bandaka?
Bien sûr, Nicole, on déplore vraiment cela à Mbandaka ici. C'est le cas, par exemple, de bateaux MB Mafuta et MB Dima. Bateaux et équipages sont bloqués au port de Mengue par les autorités militaires de la 3e région militaire. Là, au moins 7 familles, 24 personnes au total, vivent un véritable calvaire dans ce port. Pour certains, ils sont dans leur bateau depuis 6 mois. Un membre d'équipage contacté manifeste la détresse ici de son équipe.
Nous vivons très difficilement parce que nous n'avons pas de médicaments, nous n'avons pas de l'argent. Donc, nous avons aussi des mamans qui ont des grossesses, on ne sait pas comment ils peuvent vivre. Nous sommes dans l'eau, il y a des malarias, tout qu'on sort, on ne sait pas comment vivre. Pour la manger, si c'est très difficile, vraiment ça ne va pas. Mais nous demandons aux autorités supérieures de voir ces cas. Nous sommes ici abandonnés, même du côté société, même du côté l'État. Ils ne nous donnent rien à manger, ni de quoi, ni de l'argent, mais on est comme ça. Mais on ne sait pas si un cas peut nous arriver dans les provinces, qu'est-ce qu'on va faire.
Oui, là c'était donc le point de vue du membre de l'équipage d'un des bateaux que vous avez cité, certainement qu'il s'agit de MB Mafuta ou bien MB Dima. Mais une autre précision, Askin, à qui appartiennent exactement ces bateaux?
Le bateau, Nicole, appartient à la Société des Cultures du Congo, donc SCC. Donc cette société est implantée à Binga et à Bosonjo, au nord équateur. Pendant la guerre, ces bateaux ont été réquisitionnés par le MSC, y compris le membre d'équipage pour effectuer des opérations militaires.
Il serait tout de même important de savoir si jusqu'à présent les deux bateaux opèrent encore pour le compte du MLC.
Non, Nicole, selon les équipages, les bateaux ont été déjà restitués depuis le 15 mai dernier, mais pas dans un bon état. Raison pour laquelle même la société a décidé d'envoyer le bateau à Kinshasa pour les remettre en état.
Alors, pourquoi ces bateaux ne sont-ils pas restitués, je dirais, aux propriétaires? Pourquoi ces bateaux sont-ils bloqués encore en Mbandaka?
Cette question, Nicole, nous l'avons posée aux membres des deux équipages. Ils ont déclaré que c'est la 3e région militaire qui les ont empêchés de poursuivre leur voyage. Voilà ce qu'ils ont exprimé à nos micros.
Oui, j'imagine, Kaskan Zibia, vous avez eu l'occasion de parler avec une autorité militaire de la 3e région militaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit exactement?
Selon les autorités militaires, ce bateau appartient aujourd'hui à l'armée nationale, puisque selon elle, les utilisateurs de ce bateau, qui étaient des militaires du MSC, ont intégré la 3e région militaire. Pour nos interlocuteurs, c'est l'armée nationale maintenant, à lui revient la décision sur cette situation.
Jusque-là, il n'y a pas eu comme tel de précision à ce sujet. Alors, pour terminer, Askin, quel est l'impact socio-économique sur les populations de la province de l'Équateur?
Ouais, vous savez, Nicole, dans ce dossier, il est clair que le belligérant avait bénéficié de soutien de particuliers, d'opérateurs économiques, de sociétés qui leur avaient cédé leurs biens. Et ces citoyens attendaient de retrouver ce qui les appartenait après avoir souffert de la guerre. Aujourd'hui, ils ne demandent qu'une chose, qu'on leur restitue leurs biens pour reprendre leurs activités économiques. Ils pourront ainsi alors créer des emplois et aider même la province à redémarrer. Donc de nombreuses entreprises sont en panne à cause de ce flou autour de la restitution de certains biens réquisitionnés pendant la guerre.
Pardon. Conclusion, Askin, jusque-là, aucun particulier n'a pu, récupérer son bien, autrement dit, ses bateaux.
Répondez la question, s'il vous plaît, Nicole.
Je voulais savoir si jusque-là, aucun particulier, en Mbandaka notamment, n'a pu récupérer son bien.
Il y a plusieurs cas qu'on peut dénombrer, mais nous ne sommes pas encore entrés vraiment en possession, bien on n'a pas eu encore vraiment de plainte ici localement en Mbandaka, mais au niveau de la province, soit à Gbadolite, soit à Gemena, soit à Karawa, donc il y a un peu de plainte par-ci par-là, mais peut-être pour des raisons un peu techniques, nous ne sommes pas vraiment en mesure d'entrer en contact avec ce plaignant-là. Mais ce qui est vrai qu'il y a des plaintes par-ci par-là, mais à notre position, ce qu'on peut avoir comme plainte, c'est ce que nous avons vu ici au port de Mengue avec le bateau MB Mafuta et Dima.
Merci beaucoup, Askin Zigbatairo. Nous en saurons un peu plus tout à l'heure avec notre invité. Merci à vous et restez branchés sur Radio Kapi. Ah, c'est cela, un instrument qui fait plaisir beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment. Alors, je vous rappelle un tout petit peu les sujets qu'on a eu à évoquer tout à l'heure avec vous. On a parlé de l'insuffisance rénale, on a évoqué un cas, le cas de Jenny, qui est très malade et qui certainement pourra partir d'ici là pour se faire soigner ailleurs, notamment en Belgique, où là-bas au moins elle peut avoir une assistance médicale puisqu'il y a suffisamment, de moyens pour le faire. Et nous parlions aussi d'une autre question, à qui appartiennent aujourd'hui les biens réquisitionnés pendant la guerre. Là nous sommes à Mbandaka, nous aurons des réponses là-dessus tout à l'heure. Mais en attendant, il y a un auditeur qui nous a écrit, qui nous a appelé par téléphone. Il s'appelle Vango Robert, il nous appelle de la Belgique et lui réagit justement sur le problème de l'insuffisance rénale. Il dit ceci, il dit « Je suis membre d'une association dénommée MOTS. Cette association se trouve à Liège et son président s'appelle Monsieur Matondo. Cette association a reçu des appareils de dialyse et des intrants. » Et il dit ceci, il dit « Il aimerait beaucoup contacter docteur Aloni que nous avons reçu tout à l'heure, et il donne même ses numéros de téléphone. Alors si le docteur Aloni nous suit en ce moment, il peut toujours joindre Monsieur Matondo, numéro 0032 330 95 68, ou encore au numéro 0032 49 66 51 329. Comme qui dirait, il y a déjà des réactions qui commencent à arriver ici à Radio Kapi. Et je rappelle à tous ceux qui aimeraient participer à cette émission, qui aimeraient réagir aux différents sujets que nous évoquons dans notre émission, qui peuvent toujours nous joindre au numéro 081 890 68 90. Tricaille, une chanson qui a rappelé des souvenirs à tous les auditeurs qui aiment les anciens succès. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, nous évoquons dans cette première tranche d'heure deux sujets. Nous avons évoqué donc deux sujets, notamment le problème qu'on a au niveau des cliniques universitaires et même dans plusieurs pays ici, dans plusieurs villes ici en RDC, pour ce qui concerne les intrants, pour ce qui concerne la maladie qu'on appelle insuffisance rénale. Vous savez sans doute que dans plusieurs hôpitaux ici en RDC, on n'a pas de matériel, on n'a pas de moyens, on n'a pas d'intrants pour soigner cette maladie-là. Et déjà, ceux qui nous ont suivis commencent à réagir. Nous avons notamment M. Vango Robert qui nous a appelé de Belgique et qui a dit qu'il était membre d'une association dénommée MOTS. Cette association se trouve à Liège et son président s'appelle M. Matondo. Cette association a reçu des appareils de dialyse et des intrants. Alors lui, à son niveau, il a la possibilité d'envoyer tout ça ici en RDC pour assister les médecins. Et pour entrer en contact avec lui, les cliniques universitaires et peut-être aussi d'autres hôpitaux de la RDC peuvent toujours le joindre au numéro 00 32 33 0 95 68 ou encore au numéro 00 32 49 66 51 329. Continuez donc à nous appeler au numéro 081 890 68 90 pour réagir à nos différents sujets ou encore écrivez-nous à notre adresse email qui n'est autre que action@radiocapi.net. Le prochain sujet qu'on va développer avec vous tout à l'heure, on parlera du phénomène retour dans l'armée qui s'observe à Calmy et dans les villages des environnants. D'après les responsables des ONG impliqués dans le désarmement, démobilisation et insertion, les conditions vulnérables des familles, des enfants et le mauvais encadrement sont à la base de cette désorientation. Alors, des précisions tout à l'heure avec Esther Ndalafina. Rappelez-vous, appelez-nous au numéro 081-890-68-90. En attendant, pause musicale. Une chanson qui a rappelé bien des souvenirs à ceux qui apprécient Reddy Amici. Nous revenons avec vous dans ce studio. Nous sommes déjà à Calmy et bientôt nous allons rejoindre notre consoeur Esther Ndalafina. Nous vous le disions tout à l'heure, le phénomène retour dans l'armée s'observe à Calmy et dans les villages des environs. D'après les responsables des ONG impliqués dans le désarmement, démobilisation et réinsertion, les conditions vulnérables des familles, des enfants et le mauvais encadrement sont à la base de cette désorientation. Pour en savoir un peu plus, nous sommes déjà en ligne avec Esther Ndalafina. Esther, bonjour.
Bonjour Nicole, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors vous qui avez eu, je dirais, à entrer en profondeur de ce problème de désarmement, démobilisation et réinsertion, pouvons-nous savoir qu'est-ce qui est vraiment fait jusque-là? Quel est le problème réel à votre niveau là-bas à Calmy?
Oui, Nicole, une vingtaine d'enfants sur 500 enfants démobilisés ont réintégré l'armée à Calmy. Le même phénomène s'observe à Moba où la section de la protection de l'enfant a identifié la semaine dernière au moins 5 enfants démobilisés qui ont réintégré le rang des groupes armés. Reste à savoir pourquoi ces enfants quittent de nouveau leur famille pour se faire réenrôler. À cette question, je vous prie d'écouter la réponse de Mme Chantal Faïla, vice-coordonnatrice du Centre d'accueil et de protection des enfants en détresse CAPED en Sigle.
Bon, ces enfants rentrent dans l'armée, ce manque d'activité, manque des activités génératrices de recettes, et ces enfants ne sont pas bien encadrés. L'argent qu'ils gagnaient quand ils étaient dans l'armée, ils l'arrachaient dans la communauté. Et cet argent-là, ils n'ont plus quand ils ont quitté l'armée. Maintenant, quand ils arrivent et il n'y a pas des activités et il n'y a pas d'appui pour les structures de protection des enfants qui s'occupent de ces enfants-là, et ces enfants trouvent bien de réintégrer l'armée et d'aller faire la même chose comme ils le faisaient dans le passé.
Donc, Esther Ndalafina, ses enfants, si on a bien suivi Madame Chantal Faïla, qui est la vice-coordonnatrice du Centre d'accueil et de protection des enfants en détresse, CAPED en sigle, réintègre en fait l'armée parce qu'ils n'ont pas, trouvé d'assistance financière plutôt adéquate.
Oui, Nicole, les déclarations de Madame Faïla sont confirmées par le chargé de relations publiques dans la commission interéglise, Kaite Changa.
Ile kuna jambo ya encadrement. Wakati mtoto alizoea kuwa na pesa katika jeshi, hapa kirudia nyumbani kwao haiko encadré na haiko apuye. Watoto iko sanse kurudia tena katika jeshi juu ajipatie pesa yake, apate pesa.
Oui, là c'était Monsieur Kaite Changa, mais je pense que pour aider ceux qui ne comprennent pas le swahili, vous pouvez résumer Esther Ndalafina en quelques mots ce qu'il vient de dire.
Oui, Nicole, pour nos auditeurs qui ne comprennent pas les swahili, Kaite Changa, chargé des relations publiques à la commission interéglise, lui montre que c'est un problème d'encadrement. Dans l'armée, ces enfants étaient habitués à obtenir l'argent facilement. Depuis qu'ils sont rentrés dans leur famille, ils ne sont pas bien encadrés, ils ne sont pas appuyés. Alors, ils trouvent donc de rentrer dans l'armée, là où ils obtenaient facilement l'argent à l'aide de leurs armes. C'est ça.
Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Esther. Mais on aimerait savoir, est-ce que vous vous êtes aussi rendu dans d'autres ONG pour savoir si ce problème se pose également au niveau de ces ONG-là?
Oui, Nicole, pour Mme Monique Moussamba, elle est coordonnatrice de l'ONG Wamama Wajengaji, elle dit que les responsabilités liées au retour des enfants dans les groupes armés sont partagées. Pour elle, les parents doivent savoir encadrer leurs enfants, car ils sont avant tout leurs premiers encadreurs. aussi l'espoir des enfants d'obtenir un capital des ONG impliquées dans les DDR. Je vous propose d'écouter Madame Monique Musamba.
Kungambo yangu hisi mi naona, naona ya kama, na sisi wazazi vile vile, maana yake hatujui mapasho yetu mbele ya watoto. Kitu ya kwanza, naona hii maorganizmi inatoka zaidi. Ni hili unaona bazazi mingi beko hivi, anajua kama mtoto wake kama narudi. Sange, Monique atampa franga, ifeshi atanisaidia, kama ifeshi pana kunisaidia, guvernema atanipatia.
C'était donc Wamama Wajenkaji, j'espère que je prononce bien ce mot-là en swahili. Ministère, une fois de plus, il est bon quand même de résumer en quelques mots ce qu'elle vient de nous dire.
Oui, Madame Monique Musamba, elle juge que la faute incombe aux parents. Elle dit que les parents ne savent pas les devoirs qu'ils ont envers leurs enfants. Et puis, elle ajoute que les parents des enfants démobilisés savent qu'avec l'augmentation des organismes internationaux, quand un enfant quitte l'armée, la MONUC, IFESH ou le gouvernement peut venir en aide aux parents en charge des enfants.
Merci
beaucoup. Par ailleurs, Nicole, je peux dire que toutes les ONG qui sont impliquées dans le DDR à Calémie ont fait allusion au projet de réinsertion qui ont été soumis, mais dont elles n'ont aucune nouvelle jusqu'à présent.
Ok, mais on aimerait une fois de plus savoir, Esther, comment mettre finalement fin à cette situation, parce que c'est quand même une situation qui risque d'avoir des conséquences fâcheuses.
Oui, Nicole, pour mettre fin à cette situation, les ONG de Calémie demandent à l'ONG IFESH chargée de coordonner l'assistance pour le projet de réinsertion de réserver un caractère urgent lorsqu'elle reçoit un projet d'accompagnement émanant de leurs associations. Voilà.
Merci beaucoup Esther Ndalafina pour toutes ces précisions. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent nous appeler au numéro 081 890 68 90. Peut-être des éclaircissements tout à l'heure avec notre invité qui sera M. Pili Pili, qui n'est autre que le directeur du CONADER, chargé de la démobilisation et réinsertion des enfants associés au groupe ZANE. Merci beaucoup Esther Ndalafina d'avoir participé à cette émission. On vous retrouvera certainement dans la semaine prochaine.
Ok, merci Nicole.
Allez, au revoir. Je remercie tous ceux qui continuent à nous appeler au numéro 081 890 68 90. Continuez à nous appeler pour réagir aux différents sujets que nous développons dans cette émission Okapi Action. Et à ce sujet justement, nous recevons aujourd'hui Monsieur Pili Pili, directeur du CONADER. Il est chargé de la démobilisation et réinsertion des enfants associés aux groupes armés. Avec lui, nous allons discuter sur le phénomène retour dans l'armée qui s'observe à Calémie et dans les villages des environnants. D'après les responsables des ONG impliqués dans le désarmement, démobilisation et réinsertion, les conditions vulnérables des familles, des enfants et le mauvais encadrement sont à la base de cette désorientation. Ça, c'est selon les ONG. Mais nous en saurions un peu plus là-dessus avec notre invité, qui n'est autre Monsieur Pili Pili. Bonjour Monsieur Pili Pili.
Bonjour Madame.
En tout cas, tout le plaisir est pour nous que vous ayez accepté de répondre à nos questions et de venir carrément ici au studio de Radio Okapi. Alors, la première question que l'on vous pose est celle de savoir pourquoi aujourd'hui, alors que cette opération de démobilisation et de réinsertion des enfants associés aux groupes armés a déjà démarré, on observe aujourd'hui un nouveau phénomène qui est en fait le réenrôlement des enfants dans l'armée.
Merci madame. Mais avant toute chose, je voulais quand même restituer les choses. J'ai entendu tout à l'heure les interventions des uns et des autres sur le réenrôlement des enfants. Ce qui est important avant d'aborder vraiment le sujet, c'est de dire à la communauté et aux familles, aux autorités militaires que le recrutement ou le recrutement des enfants est un acte illégal. Nous avons eu l'occasion de faire passer le message du chef d'état-major général le mardi dernier au cours d'une émission consacrée justement à la démobilisation des enfants, pour dire que recruter ou re-recruter un enfant constitue un crime de guerre. Mais cela étant, vous savez, c'est un problème qui est pas facile, qui est assez complexe et qui doit trouver sa solution par rapport aux autorités militaires, par rapport à la famille et par rapport à la communauté de base, avant que la CONADER, qui est la structure chargée de l'exécution du programme national, puisse s'impliquer totalement ou accompagner cette communauté, ces autorités militaires dans la réinsertion et la démobilisation, enfin plutôt dans la démobilisation et la réinsertion des enfants.
Vous avez dit que vous avez lancé un message, mais ce message n'a semble-t-il pas été respecté par les différents groupes armés.
Vous savez, le pays est très grand. Le message, il est donné au niveau du chef d'état-major. Il faut que dans la chaîne de commandement militaire, ce message soit répercuté au niveau des unités jusqu'au commandant de place. Donc, et notre aussi souci ou notre mission en tant que Canadien est de faire aussi la sensibilisation auprès de la communauté, auprès des familles, auprès des autorités militaires pour expliquer déjà l'illégalité du recrutement des enfants et aussi expliquer à cette communauté ou à ces ONG qui ont pris la parole tout à l'heure, que la réinsertion des enfants dépend aussi d'eux. D'un côté, il y a la CONADER comme structure de coordination et de planification des activités du DDR. De l'autre côté, il y a les ONG, il y a la communauté. La famille doit savoir que la place de l'enfant, ce n'est pas dans l'armée. Ce n'est pas parce que l'enfant souffre auprès de la famille qu'il faut l'envoyer dans l'armée.
La famille, certainement, j'imagine qu'elle le sait, mais l'enfant, lui, à son niveau, est-ce qu'il accepte? Parce que déjà, à Calémie, il y a une vingtaine d'enfants sur 500 démobilisés qui ont réintégré l'armée. Et le même phénomène s'observe à Moba, où la section de la protection de l'enfant a identifié la semaine dernière au moins 5 enfants démobilisés qui ont réintégré les rangs des groupes armés au mois d'octobre 2004. Comment vous, à votre niveau, au niveau de la CONADER, vous comptez résoudre ce problème?
Il y a d'abord l'information de l'enfant lui-même qui est bénéficiaire de ce programme. Donc il doit savoir qu'il a des droits et que le fait d'aller dans l'armée constitue une violation de ses droits. Donc il y a l'enfant lui-même à sensibiliser et à pouvoir convaincre pour qu'elle ne prenne plus la voie des armes. Il y a aussi les autorités militaires, les autorités militaires, les responsables des groupes armés, à qui il faut dire que recruter un enfant, même s'il est dans un état de détresse, même s'il se présente lui-même, constitue un crime de guerre pour celui qui accepte de les recruter. Donc c'est ces deux aspects qui sont fondamentaux pour qu'on puisse régler ces problèmes. Ensuite, il y a le problème de l'encadrement et de la prise en charge. Ce qui est important aussi, c'est que l'enfant ne se retrouve pas dans la rue, qu'il soit pris en charge.
Monsieur Pilipili, j'aimerais être vraiment précis avec vous. Vous avez une grande responsabilité au niveau de la CONADER, vous l'avez dit. Mais jusque-là, ça semblait donner de bons résultats. Mais maintenant, puisqu'on observe déjà ce phénomène à Calémie, cela suppose qu'on observe le même phénomène ailleurs en RDC. Est-ce que vous êtes seulement conscient de ce problème?
Oui, nous sommes conscients de ce problème, mais vous savez, nous avons eu une période trouble ici avec la guerre civile, mais il y a toujours des postes de conflit, et ce sont des zones à risque. Donc les enfants qui sont là-bas sont recrutés ou volontairement ou involontairement, les uns parce que les groupes armés et les forces à venir avec eux pour défendre soi-disant les intérêts de leur groupe, et les autres parce qu'ils ont des besoins économiques qu'ils y vont. Donc il y a pas que le fait de les encadrer, de ne pas les encadrer, il y a l'aspect sécuritaire qui fait aussi que les enfants soient impliqués dans ces conflits.
Vous avez dit que les enfants ont des besoins économiques, des besoins financiers. Comment vous, à votre niveau, au niveau de la CONADER, vous comptez en fait assister ces enfants-là? Parce qu'en fait, beaucoup se font réenrôler au niveau de l'armée tout simplement parce qu'ils ont besoin d'argent, il faut le dire.
D'accord. Et je vais essayer de vous expliquer comment ça marche un peu le programme national. Parce que la CONADER n'est pas sur le terrain. La CONADER agit à travers les partenaires. Et tout à l'heure, vous avez entendu une dame parler de IFESH. Nous avons au niveau de Calémie une ONG internationale qui s'appelle IFESH et qui s'occupe de la prise en charge des enfants, de leur sortie de groupes armés dans leur regroupement dans les centres de transit et d'orientation. Mais ce qui est vrai, c'est que nos partenaires doivent aller au-delà de ce qui est transitoire pour nous, les regroupements dans les centres de transit, et aller au-delà de cela pour proposer des solutions aux enfants. Chaque enfant doit avoir, au fait, un projet individuel qui doit être pris en compte par nos partenaires et qui doit être réalisé avec l'apport de l'enfant lui-même par rapport aux opportunités du coin, par rapport au financement aussi. Il faut savoir que le financement de DDR n'est pas extensible jusqu'à souhait. Donc il faut avoir certaines limites, il faut aussi avoir certains paramètres. Mais ce qui est vrai, c'est que nous employons aujourd'hui pour qu'on arrive à avoir cette réinsertion, et surtout réinsertion économique durable pour les enfants avec des projets individuels. Ce programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion n'a effectivement été financé, n'est financé qu'à partir du 9 novembre 2004. Donc c'est pas très très loin. Donc nous avons eu un accord de financement et cet accord a été mis en vigueur le 9 novembre. Donc nous sommes encore très jeunes par rapport rapport aux aspects financiers. Mais cela étant, oui, madame.
J'ai retenu une chose, c'est que vous avez dit que chaque enfant a un projet individuel. Autrement dit, j'imagine que à votre niveau, peut-être au niveau de vos partenaires, les ONG, vous apprenez, je dirais, un métier à chaque enfant, de façon à ce que celui-là soit capable de gagner au plus tard sa vie, c'est ça?
Oui, normalement, l'enfant, quand il sort de force et groupe armé, il est pris en charge par les structures. Nos partenaires, IFESH, en l'occurrence, au niveau de Calémy. À ce moment-là, dans la structure transitoire, l'enfant est écouté par les encadreurs. L'enfant choisit de faire quelque chose demain en sortant du CTO. Peut-être l'école classique, il peut réintégrer l'école classique. Il peut faire l'apprentissage, il peut faire une autre formation. Donc ça, ce sont des besoins de l'enfant qui sont pris en compte par nos partenaires, et ces besoins, normalement, doivent aussi être des besoins qui sont possibles dans sa communauté de retour. Donc, c'est tous ces paramètres.
Mais est-ce que jusque-là, ce que vous faites avec les enfants, vous leur appreniez des métiers, est-ce que jusque-là, ces métiers, je dirais, leur sont rentables? Ça leur apporte quelque chose?
Nous avons eu, à vrai dire, madame, une expérience pilote dans ce pays avec les Bunadais. Nous avions eu plus ou moins 427 enfants qui ont été pris en charge par un programme financé par la Banque mondiale, qui a donné certains résultats avec des failles, bien sûr. Mais nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui un programme national de grande envergure avec 33 000 enfants. Vous savez, c'est pas facile. Il y en a 20 qui ont réintégré l'armée, mais nous en avons 33 000 à prendre en charge, et nous pensons que avec l'appui des partenaires, parce que c'est un programme qui est exécuté par les partenaires. Nous faisons la cartographie d'intervention pour les uns et les autres, pour les provinces. Et à cette occasion, je rappelle aux ONG que nous allons venir aussi à Calémy, et nous allons prendre contact avec eux. Je suis déjà arrivé à Calémy pour la libération de ces enfants dont on parle aujourd'hui. Mais la deuxième étape, ce sera celle de pouvoir voir avec les uns et les autres comment on peut travailler ensemble pour prendre en charge ces enfants. On n'est pas dans les DDR, on ne se décrète pas dans les DDR. Il faut aussi que ces gens-là nous proposent des choses, des projets, parce que nous avons besoin de projets, nous avons besoin de recenser des projets, et des projets qui soient valables pour les enfants, pour la recherche économique durable.
Monsieur Pilipili, nous avons une question qui nous vient de Isiro, il s'agit de Madame Odette. Elle nous dit ceci, qu'il y a beaucoup d'enfants soldats dans le district de Bouta. Qu'attend-on pour s'occuper de ces enfants-là?
Ok. Normalement, au niveau de la province orientale, nous avons un partenaire qui s'appelle IRC. Et si madame regarde autour de lui au niveau de Isiro, il doit avoir un centre de jour de l'IRC qui prend en charge les enfants. Et merci pour l'information. Nous allons voir où se trouvent les enfants, si vous pouvez nous dire exactement dans quel coin se trouvent les enfants. Mais nous allons nous informer de notre côté pour voir où se trouvent les enfants et demander à notre partenaire de la province orientale de les prendre en charge.
Dernière question. Comment faire aujourd'hui pour que les enfants arrête de se faire réenrôler au niveau des groupes armés?
Il faut d'abord qu'au niveau des réseaux de protection de l'enfant, qu'on puisse passer le message sur le droit de l'enfant. Il faut aussi qu'au niveau des autorités nationales, qu'on puisse aussi passer le message par rapport aux instruments juridiques qui régissent ces domaines. Nous savons que notre pays a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux, la Convention des droits de l'homme, les statuts de l'homme, et j'en passe. Mais il faut vulgariser tout ça, faire un plaidoyer auprès des uns et des autres pour que les enfants trouvent leur place auprès de la famille ou gardent leur place auprès de la famille. Et il n'y a que par cela que nous pouvons garder les enfants auprès de la famille, mais il y a aussi l'aspect économique qui n'est pas forcément dans le DDR. Il y a l'aspect économique qui est l'environnement aujourd'hui de notre pays assez critique. Donc il faut essayer de mettre en parallèle tous ces éléments pour qu'on puisse régler et gérer l'histoire de l'enfant, parce que ce n'est pas seulement une histoire de DDR, mais c'est aussi une histoire économique.
Ce sont de belles paroles tout ça, mais ne pensez-vous pas qu'il faut aussi remettre à cet enfant qui a déjà, je dirais, pris goût à l'argent, de lui remettre une certaine somme qui lui permettra peut-être de faire ce qu'il veut pour vivre?
Oui, vous savez, madame, dans la prise en charge de l'enfant, il y a beaucoup d'argent qui circule. Le fait qu'il reste dans le centre de transit et d'orientation, il peut rester de 1 à 3 mois pour rechercher sa famille. Vous savez, le territoire est grand. Aujourd'hui, à Mwanda, nous avons 253 enfants qui sont de Sud-Kivu. Et nous les gardons depuis le 27 décembre. Donc, on va encore les garder peut-être 2 mois ou 3 mois de plus, afin de chercher leur famille. Ça coûte de l'argent. Et une fois qu'ils seront sortis, on a un appui pour eux. un appui pour eux en tant que bénéficiaires directs et un appui pour la famille. Donc c'est un processus qui tient en compte tous ces éléments, tous ces paramètres économiques. Donc l'enfant aura un appui pour lui s'il a un projet individuel, s'il peut faire l'apprentissage, s'il peut se mettre tout de suite dans une activité génératrice de revenus s'il a entre 15, 16 et 17 ans. On peut aussi lui donner la possibilité d'avoir une activité qui puisse lui ramener des revenus tout de suite. Mais il y a l'appui de la famille, il y a aussi l'appui communautaire. Nous ne faisons pas que pour la famille de l'enfant, nous faisons aussi pour la communauté dans laquelle l'enfant va se réinsérer. Donc on a les appuis par rapport aux écoles, par rapport au centre de santé, par rapport à beaucoup de choses.
Merci beaucoup, Monsieur Pili Pili, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes le directeur de la CONADER, je rappelle à ceux qui viennent de nous joindre, et vous êtes chargé de la démobilisation et réinsertion des enfants associés au groupe ZARMI. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci, madame.
Capiaction est une émission qui vous permet de découvrir plusieurs réalités de notre pays, raison pour laquelle nous rentrons à Kinshasa. Nous avons sillonné Kalemi, nous avons été également ailleurs au Congo. Et maintenant, nous revenons ici à Kinshasa. Nous allons bientôt retrouver Marcel Ngombo, qui va nous apporter encore beaucoup, beaucoup d'informations. Mais je rappelle à tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui peuvent continuer à nous appeler au numéro 081 890 68 90 pour réagir à nos différents sujets. Alors, voilà ce que Marcel nous apporte comme info. Depuis mi-janvier dernier, des réservoirs d'eau potable ont été installés dans certains quartiers de la commune de Kimpanzeke. C'est à l'initiative des Médecins Sans Frontières Belgique que cette œuvre a été réalisée. Objectif, sauvegarder les habitants de ces quartiers de la flambée d'un nouveau fléau qui a sévi dans cette partie de la capitale il y a quelques deux mois passés. Il s'est agi de la péritonite qui, selon les médecins, est une forme de complication de la typhoïde. Cette dernière est une maladie causée essentiellement par la consommation des aliments souillés et de l'eau non potable. On en parle donc avec Marcel Ngombo Mbala qui a visité le week-end dernier quelques quartiers de Kimbanseke, approvisionné en eau potable par Médecins Sans Frontières. Et je rappelle à tous ceux qui sont avec nous déjà en ce moment et qui nous suivent branchés 24 heures sur 24 sur Radio Capi que nous sommes déjà là avec notre invité qui est l'ADT de la Régie des Eaux que nous retrouverons tout à l'heure. Mais d'abord, parole à vous, Marcel Ngombo. Bonjour Marcel.
Bonjour Nicole.
Alors, première question, combien de quartiers bénéficie-t-il de cet approvisionnement, plutôt en eau potable?
Il y a 6 quartiers qui ont été retenus pour bénéficier de cet approvisionnement en eau potable. C'est des quartiers où se posent d'énormes difficultés d'accès à l'eau potable et où de nombreux cas de fièvre typhoïde ont été signalés. Il y a donc 4 quartiers sur le site de la route Mokali et 2 autres sur le site de Kikimi.
Voilà, des détails plus ou moins, je dirais, très importants même. Mais on parle des réservoirs d'eau potable installés dans ces quartiers. Pouvons-nous connaître la capacité, Marcel, de ces réservoirs et d'où provient exactement l'eau qu'il contient?
Pour chacun de ces 6 quartiers, il y a un réservoir d'une capacité de 15 000 litres. Et il faut souligner que cette intervention ponctuelle de Médecins Sans Frontières Belgique se fait en partenariat avec le gouvernorat de la ville de Kinshasa, le ministère de la Santé publique, la Régie des Eaux et la Monique. L'eau fournie dans ces réservoirs est prélevée au niveau de la station de traitement et de distribution de la Régie des Eaux située à Kingabwa. C'est donc les camions citernes de la MONUC qui transportent cette eau jusqu'au réservoir installé dans ces quartiers.
Oui, mais il est évident que cette action, Marcel, est salutaire pour les habitants des quartiers concernés. Une question, comment ont-ils accueilli cette action, d'autant plus que l'eau potable est une boisson souvent rare dans cette partie de la capitale?
On ne cesse de le dire, l'eau est indispensable à la vie, mais faudra-t-il encore qu'elle soit de bonne qualité pour prévenir certaines maladies telles que la fièvre typhoïde ou encore le choléra? Et les habitants de ces quartiers ne demandent pas mieux que ça. On les écoute.
Et surtout, quand on est en typhoïde, on est en train de se faire. va continuer car aboye va chapona un mois c'est mais va sunga biso va continuer car aboye era malam penza.
Dans ces pays makassi, autrement dit, ils sont contents, mais quand même, il est bon de savoir, parce que d'après ce que nous venons d'entendre, les habitants souhaitent que cette action dure, mais il s'agit pourtant d'une action ponctuelle, Marcel. Est-ce que avant cette action des Médecins Sans Frontières, la Régie des Eaux était présente dans certains de ces quartiers?
Dans les quartiers Moulé, par exemple, où nous avons été, on nous a laissé entendre que c'est depuis juillet 2004 que pas une seule goutte ne coule des robinets de la Régie des Eaux. Je vous propose de suivre Papa David Loutété, qui est un des habitants de ces quartiers et propriétaire de la parcelle dans laquelle les habitants du quartier viennent puiser de l'eau approvisionnée par Médecins Sans Frontières.
Ça nous a beaucoup réjouis parce que depuis juillet de l'année passée que nous avons eu l'eau de la Régie des Eaux. Donc on sortait de, entre 2h et 4h du matin pour avoir de l'eau. Il faut parcourir au moins des centaines de mètres. Et nos enfants parfois, on leur jette les eaux déjà puisées, on les jette sur le corps de l'enfant pour leur dire « allez va-t'en là-bas ». Voilà ce qui a causé que les enfants puissent nous porter même de l'eau sale, impropre à la consommation. On nous a porté ça qui nous a causé plusieurs maladies, maux de ventre, typhoïdes et ainsi de suite. Là. Nous voulons que cette action puisse continuer jusqu'à la réhabilitation des machines de la Régie des Eaux. Voyez même les robinets, vous pouvez le voir, il est sec, l'eau ne sort plus depuis juillet de l'année passée.
Les factures vous arrivent?
Non, les factures n'arrivent plus. Nous avons retourné les factures qui sont venues juste au mois d'août. Leur avons dit, bon, venez même la nuit, n'importe quelle heure, venez voir s'il y a une goutte d'eau qui sort de vos installations. Et ils ont interrompu, mais ils passent de temps en temps pour nous donner du courage, vous dire non, 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 bientôt, le matériel sont en route et nous viendrons vous ravitailler.
Oui, il revient donc à la Régie des Eaux de tout mettre en œuvre pour reprendre à nouveau l'approvisionnement de ces quartiers comme cela se faisait auparavant. Nous en saurions un peu plus là-dessus tout à l'heure, certainement avec M. Anzema qui est l'ADT de la Régie des Eaux. Mais en attendant, Marcel, que pense faire Médecins Sans Frontières au cas où cette action n'arrivait pas à son terme?
Pour ce qui est de Médecins Sans Frontières, cette action a été menée pour interpeller le gouvernement sur la nécessité d'approvisionner le plus rapidement possible cette population en eau potable. Comme tu le disais tantôt, la Régie des Eaux est plus qu'interpellée pour éviter dans les mois ou les années à venir de déplorer de nombreux autres cas alarmants de fièvre typhoïde. Suivant plutôt Alain Dico, chef de mission des Médecins Sans Frontières Belgique.
L'objectif, c'était effectivement de faire réagir un peu les autorités, la Régie des Eaux et d'autres, le ministère de l'Énergie, avec l'appui du ministère de la Santé, pour effectivement trouver une solution à ce problème. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on pallie à un besoin avec la MONUC qui nous appuie dans la distribution d'eau, avec les autorités provinciales qui nous appuient dans la négociation avec la Régie des Eaux. Mais bon, l'objectif pour nous, c'est pas une urgence. L'urgence, c'était la fièvre typhoïde. Il fallait répondre, il fallait approvisionner en eau, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, ça devient un problème structurel. Problème structurel, c'est un problème qui doit être effectivement réglé et résolu par les autorités congolaises, par la Régie des Eaux, par le ministère de l'Énergie. Jusqu'à présent, on a eu effectivement énormément d'appui de ce côté-là. Maintenant, il faut que ça se poursuive, même quand on sera parti.
C'était donc là M. Alain Deco, qui est chef de mission des Médecins Sans Frontières Belgique. Pour terminer avec vous, Marcel Ngombo, est-ce que vous avez une idée du moment où pourra prendre fin cette action, parce que c'est une action qui est ponctuelle, hein?
D'après les responsables de cette organisation, Médecins Sans Frontières Belgique, cela pourrait être probable vers la mi-février. Donc autour de mi-février, les habitants de ces quartiers n'auront plus accès à cette eau de ces réservoirs approvisionnés par Médecins Sans Frontières.
Merci beaucoup Marcel Ngombo de nous avoir apporté cette information au niveau de Kimbanseke. Tout à l'heure, nous saurons avec notre invité, l'administrateur technique de la Régie des Eaux, M. Anzama, quelles sont les solutions préconisées à court terme pour mettre fin au calvaire des habitants de ces quartiers de la commune de Kimbanseke. Merci à vous Marcel Ngombo. Et je rappelle aux auditeurs que pour participer à cette émission, ils peuvent nous appeler au numéro 081 890 68 90. Une chanson très très belle, là, n'est-ce pas, hein? J'espère que ça vous plaît. Vous qui êtes branchés depuis le matin à Radio Capi, continuez à être branchés. Et surtout, continuez à nous appeler au numéro 081 890 68 90 pour réagir à tous les sujets que nous développons dans Okapi Action. Alors, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes déjà avec notre invité qui n'est autre que M. Andiama, qui est l'ADT de la Régie des Eaux, l'ADT, autrement dit, l'administrateur technique de la Régie des Eaux. Première question, M. l'ADT, tout d'abord, je vous dis bonjour.
Bonjour, Madame Nicole.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de venir carrément ici au studio de Radio Capi pour répondre à nos questions. Première question, je vous l'ai posée tout à l'heure. Quelles sont les solutions préconisées à court terme par la Régie des Eaux pour mettre fin au calvaire des habitants de ces quartiers de la commune de Kimbanseke?
Madame Nicole, vous aviez tellement insisté que je ne pouvais que accepter de venir répondre à cette invitation.
Merci.
Mais avant de répondre à cette question, il y a une vérité que nos auditeurs doivent savoir. Nous connaissons un déficit dans la production de l'eau potable dans toutes les villes du pays. Dans la ville de Kinshasa, nous produisons à peine 400 000 mètres cubes jour. Une ville de 8 millions d'habitants, si vous faites le rapport, cela veut dire que chacun de nous a droit à moins de 50 litres par jour. Donc, et c'est peu. Dans une ville moderne comme notre ville ici, la moyenne c'est de 100 à 150 litres par habitant par jour. Donc nous produisons en deçà de nos besoins.
Pourquoi?
Parce que nous n'avons plus investi dans ce pays. Ça fait depuis 90 que le pays a connu l'embargo de toutes les institutions financières. Et on n'a plus investi dans les domaines de l'eau potable. Nous avons, heureusement, grâce au savoir-faire de nos agents, gardé l'outil de production jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez le peu qui coule à colle au robinet aujourd'hui.
Je veux bien, M. Anzama, mais c'est tout de même inadmissible. Vous avez suivi le dossier développé tout à l'heure par mon confrère Marcel Gombo. C'est inadmissible qu'aujourd'hui, Médecins sans frontières Belgique viennent assister les Congolais, les habitants de Kimbanseke pour l'approvisionnement en eau potable. Ça, c'est le travail de la Régie des Eaux.
Oui, c'est le travail de la Régie des Eaux. Nous sommes en train de le faire. Et le gouvernement a déjà mis en place, nous avons commencé d'abord par le PMU. Et dans le PMU, nous avions aligné les projets pour 187 millions de dollars. Et on a pu mobiliser 80 millions de dollars. Pas même la moitié. Et dans ces 80 millions de dollars, nous avons la ville de Kinshasa qui prend la part de loup parce que nous allons réhabiliter les usines d'Enjili et nous allons construire une troisième module de l'usine d'Enjili. Et c'est à l'horizon de la fin de ce projet que nous allons essayer de résorber un peu le besoin, le déficit que nous avons à nous. Mais à 90, quand la coopération était partie, quand il y a eu interruption de la coopération, nous avions le projet de construction du troisième module d'Enjili, de 110 000 m3. Aux Eucalyptus, nous avions un financement japonais pour construire une usine qui devait alimenter l'est de la ville.
Cela n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui.
Cela n'a pas été fait. L'argent était là, on était en train de le faire. Nous étions en train de construire l'usine de la Lukaya pour le sud de la ville, donc à côté de Kimwenza, pour alimenter le sud de la ville, Badiadingi, Cité Verte, Mama Mobutu, tout ça. Alors, madame, quand la coopération s'est arrêtée à 90, tous ces financements étaient arrêtés. Donc le troisième module d'Engil était financé par la caisse française, par l'AFD. Alors, ce que nous étions en train de faire à 90, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous connaissons un retard de 15 ans, madame. Parce qu'aujourd'hui, nous allons construire la troisième module sous financement de la Banque mondiale. Et nous sommes en train de chercher l'argent pour remettre sur pied la construction de l'usine de Lukaya.
Oui, mais il y a quand même un problème. Depuis 90, la Régie des Eaux est assistée, notamment par les partenaires extérieurs. Aujourd'hui, nous sommes en 2005. La Régie des Eaux continue à être assistée par les partenaires extérieurs. Vous ne trouvez pas ça anormal alors que je pense que la plupart payent quand même leurs factures et ces factures, mine de rien, ce sont quand même de gros montants, hein, vous savez?
Oui, madame. Depuis 90 jusqu'à présent, la Régie des Eaux était assistée dans une partie de son exploitation, mais pas dans le développement. La construction d'une usine et l'extension du réseau coûtent trop cher. Ça coûte trop cher. Pour une ville comme Bujima, il nous faut 45 millions de dollars. Pour la ville de Lubumbashi, nous sommes en train de chercher 35 millions de dollars que nous n'avons pas. Et ces villes-là, nous avons les dossiers d'appel d'offres qui sont disponibles, mais nous n'avons pas de l'argent pour faire les travaux, pour commander les travaux.
Vous parlez justement de Mbujimayi. Oui. Là, il y a un monsieur qui vient de nous appeler, monsieur Kaping, qui lui est à Kananga et il vous demande ceci. Il pose une question. L'eau du robinet est-elle potable à Kinshasa? Parce que selon une étude de l'école de santé, nous avons appris que l'eau n'était pas potable parce que plusieurs canalisations, autrement dit les tuyaux, sont troués, donc en mauvais état. Quelles sont les dispositions prises par la Régie des Eaux et par les Médecins Sans Frontières? Mais là, la question s'adresse directement à vous, la Régie des Eaux. Qu'est-ce que vous prenez comme disposition pour essayer de réhabiliter les tuyaux, les canaux en fait?
Bon, nous allons laisser de côté un peu la production, parce qu'ici les besoins, vous le savez déjà que les besoins ne sont pas couverts par la production. Pour parler de la qualité, si la quantité n'est pas suffisante, mais la qualité est suffisante. Madame, donner l'eau potable est une responsabilité. Et la Régie des Eaux ne peut pas donner l'eau à une mégapole comme Kinshasa, de 8 millions d'habitants, et donner une eau de n'importe quelle qualité.
Même s'il y a vétusté du matériel, autrement dit des tuyaux et tout le reste?
Les tuyaux, quand nous donnons de l'eau, au départ de l'usine, il y a un chlore rémanent. Le chlore, c'est un désinfectant qu'on met dans l'eau pour tuer les microbes. Et au niveau du réseau, nos équipes passent pour voir s'il y a les traces de ces produits dans l'eau. Dès qu'il y a les traces de ces produits dans l'eau, c'est que l'eau est encore potable. C'est quand il n'y a pas de traces de chlore dans l'eau que nous devons faire tout pour pouvoir faire apparaître cette trace-là. Donc, notamment, on procède aux purges, au nettoyage des canalisations pour permettre à ce que ces chlores ne soient pas bouffés. Le chlore est bouffé par la saleté. Parce que dès qu'il y a la saleté, c'est ce qui consomme le chlore.
Mais l'eau que l'habitant, le Congolais qui nous suit, en Mbujimayi ou dans le Bandundu encore, à Matadi, est-ce que cette eau-là est potable?
Madame, nous ne connaissons pas de rupture de produits chimiques. Nous avons les produits chimiques dans toutes nos stations qui fonctionnent. Et la qualité du travail est irréprochable. Bien sûr, nous reconnaissons que les outils sont vieux et vétustes. Et nous sommes en train de nous employer pour réhabiliter ces outils. C'est justement le programme du gouvernement. Le PEMUR au début, aujourd'hui c'est PEMPETER. C'est quoi? C'est consolider l'existant et faire les extensions pour aller vers ceux qui n'étaient pas desservis par la Régie des Eaux. Et ces programmes-là, c'est une affaire de 621 millions, au bas mot, 621 millions, mais il faut plutôt des milliards pour pouvoir faire tous les pays et les faire proprement.
Donc pour l'instant, Médecins Sans Frontières va faire votre travail à votre place.
Il ne va pas faire notre travail, madame. Médecins Sans Frontières ne fait pas notre travail.
Puisqu'il assiste les habitants de Kimansekè.
Entre dire et faire, il y a un problème. Parce que madame, pour poser un tuyau et aller à Kimbaseke, ce n'est pas un jour qu'on peut le faire. Ce n'est pas un jour qu'on peut le faire. Nous avons un financement. Le temps que ce financement se mette, on a même signé le contrat. On a posé la première pierre pour la prise d'eau d'Enjil au mois de juin. Mais il n'y a pas encore des activités. Pourquoi? Parce que l'entreprise qui a gagné le marché a commandé les matériaux, a commandé certains équipements. Et quand on commande, il y a les délais de fabrication. Il faut attendre que ces matériaux soient fabriqués, puisque ce qui rentre dans une usine, madame, ce n'est pas comme des pains qu'on achète au coin de la rue. C'est quand vous placez la commande que l'usine se met en marche pour fabriquer ce que vous avez commandé selon vos spécificités. Et c'est ce qui se fait que les travaux, la pose de la première pierre qui a eu lieu au mois de juillet par le vice-président Irodia et le début effectif des travaux, il y a un peu de marge. Mais là où les gens peuvent travailler, par exemple au réservoir de Gombele, on a déjà fait les excavations, on a coulé. Là où il y a les bétons, ça s'est fait. Mais là où il faut que les équipements viennent, que les machines viennent, il faut attendre le temps de la fabrication.
Mais ce n'est pas suffisant, il y a encore beaucoup à faire là-dessus, monsieur l'ADT. On va boucler cette conversation tout à l'heure. Voilà, alors nous allons boucler plutôt cette émission avec notre invité, monsieur l'ADT Anziama. Monsieur l'ADT, votre mot de la fin, ça signifie que d'ici là, si tout va bien, la régie des eaux pourra approvisionner en eau potable tous les habitants de ce pays?
Si nous avons de l'argent, nous sommes en train d'y travailler. Nous travaillons justement pour trouver les financements pour pouvoir approvisionner tout le monde. Et pour les habitants de la commune de Kimbassé, qui est là où notre réseau arrive, nous allons essayer de voir un peu comment nous organiser au niveau du réseau pour pouvoir permettre à ce que ceux qui étaient alimentés jusqu'à juillet 2004 puissent ne fût-ce qu'être alimentés. Mais les autres quartiers d'extension, il y a des nouveaux quartiers d'extension qui viennent de s'ajouter là où nous ne sommes pas encore. Il faut attendre que les projets d'agrandissement de nos extensions de production puissent voir le jour.
Oui, mais une petite précision quand même est importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Mmh. Nous sommes en train de prendre un tout petit peu les heures de notre chère consoeur Tina Salama, mais juste une petite précision parce que Martin, qui nous appelle de Kinshasa, pose quand même une question préoccupante. Faut-il bouillir de l'eau du robinet avant la consommation ou la consommer telle qu'elle? Une réponse rapide, oui ou non?
L'eau régie des eaux est potable. Quand les autorités ont demandé de bouillir l'eau, c'était dans le quartier où il y a eu la péritonite, parce que là, ils prenaient l'eau de puits. L'eau régie des eaux est potable.
Donc, il ne faut pas la bouillir.
Pas nécessaire.
Pas nécessaire. Autre précision, mademoiselle Madeleine, qui appelle de Moukali, c'est aussi un coin périphérique, elle pose une question. Si cette eau qu'on apporte par les CITAM est payée par la régie des eaux ou les MSF?
Il y a eu un arrangement avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est le vice-gouverneur Batumona qui est venu nous voir et il a organisé cela. Donc c'est à leurs excellences qu'il faut donner les remerciements pour l'eau qu'ils sont tentés de recevoir.
Merci beaucoup, monsieur l'ADT, monsieur l'administrateur technique de la régie des eaux, monsieur Anziama. Merci d'avoir répondu à toutes les questions.